Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Et oui, on fait toujours la blague. Merci Alban. C'est bien François Pinet aux commandes des grandes gueules du sport ce matin. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans les grandes gueules du sport.
On n'a pas ton générique. Fabriquer un générique pour François Pinet quand même depuis le temps. C'est 20 ans qu'il est là.
Merci Christophe.
Ouais, impossible.
Je rappelle, on est en direct jusqu'à midi. Très heureux de vous retrouver, de vous accompagner ce matin avec encore un gros programme. La suite d'un des feuilletons de l'année, celui des droits télé. Nouvel épisode cette semaine avec le refus de DAZN de payer une partie de ce qu'il doit à la Ligue 1. On fait le point sur l'affaire. On pose cette question à nos GG. Le foot français est-il en danger de mort? À 10h, c'est le bras de fer des GG après les déclarations de Didier Deschamps hier. Après les Bleus, pas de retraite pour notre Dédé, mais est-ce qu'il ferait un bon entraîneur? Votre avis au 32-16 et l'avis des GG dans une heure. Et puis à 11h du rugby au programme de la seconde des GG avant la suite du tournoi des Six Nations. Est-ce qu'on est trop gentil avec le 15 de France? Il n'y a pas eu beaucoup de critiques après la défaite face à l'Angleterre la semaine dernière. Le dossier des GG sur le biathlon qui fait un carton, sans oublier vos rendez-vous habituels, le zapping, la punchline de Victor Wembanyama aujourd'hui avant le All-Star Game et les GG contre-attaque, les grandes gueules qui vont vous proposer un débat dans un instant et vous pourrez aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport pour votre débat préféré, vos réactions sur le hashtag RMC Live sur X, sur l'appli RMC Direct Studio et le 32-16 ouvert dès maintenant pour participer au débat de nos grandes gueules. Les grandes gueules du sport avec aujourd'hui, vous l'avez entendu, une GG qui, comme DAZN, devrait penser à arrêter bientôt. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Non, ça, oui, mais je suis là depuis plus longtemps que DAZN, c'est ça le problème. Ça ne fait pas que 6 mois que je suis là. Je demande moins d'argent que DAZN quand même.
Ah bah tiens, justement.
Par contre, c'est pas le couple Anaïs-François qui, elle, est en train de plomber les finances des RMC.
On balance les dossiers. On balance les dossiers. Tu crois vraiment que ça intéresse les gens là qui nous écoutent?
Exactement. Les gens adorent les dessous. Les affaires, les potins, et moi j'adore les potins aussi.
Très bien, on ne peut pas être discret dans une rédac avec Christophe Cessieux, vous l'avez compris. Une grande gueule qui, comme DAZN, ferait mieux d'arrêter.
C'était mignon à dire tout à l'heure. Et bonjour.
Là, il va pas me lâcher.
Ah mais non, tu m'attaques, je t'attaque direct.
Une grande gueule qui, comme DAZN, ferait mieux d'arrêter de parler foot. Frédéric Weiss est là. Salut Fred.
Salut. Oui, t'as raison, je ne devrais pas parler de foot. Mais on devrait parler
de ragots. Se concentrer sur le basket.
J'aime les ragots, il adore.
J'adore. Tu peux m'expliquer un petit peu plus?
Non, c'est bon. On va pas faire l'émission là-dessus. Une GG qui, comme DAZN, coûte beaucoup trop cher. Marion Bartoli est avec nous. Salut
Marion.
Surtout.
Je prends un chèque tous les mois.
Mais elle rapporte.
Je vais couler RMC à moi toute seule.
Elle rapporte énormément. Toutes les stars du sport viennent chez elle quand même. Attention, c'est pas pareil.
Merci mon Christophe.
Une GG qui, comme DAZN, attend qu'un club lui ouvre enfin ses portes. Pascal Duprat. Salut Pascal.
Salut François. Salut les amis.
Ça va mon Pascal?
Je suis en pleine forme.
Quand il dit qu'il est en pleine forme, on va morfler.
Hein. C'est parfait. Des débats sympas. Je vais pouvoir me friter avec chacun d'entre vous.
Voilà. Formidable. C'est ce que t'aimes le plus. T'attends toujours qu'un club t'ouvre tes portes, non? C'est bon?
Oui, écoute, je ne désespère pas. La vie est belle néanmoins.
Bon, vous êtes en pleine forme, on l'a bien compris. On ne va pas parler que des dessous d'RMC, je vous rassure. Tout de suite, plutôt votre.
Ouais, quand même un peu.
Non, la série.
Moi, ma contre-attaque, ça va être là-dessus quand même.
La série préférée, quand même, en ce moment. Ce sont les droits du foot, évidemment, épisode 452. C'est parti.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Et voilà, on a les droits.
Avec DAZN, streamez tous les matchs de Ligue 1 McDonald's.
Le contenu de DAZN, ce qu'il nous propose, c'est un scandale.
Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits?
DAZN, c'est toute la Ligue 1 McDonald's, tous les matchs, tous réunis, seulement sur DAZN.
Le diffuseur DAZN menace de ne pas payer les 35 millions d'euros qui lui restent à honorer en février dans son contrat avec la LFP. Parce que ces gens-là, ils jouent avec le football français. Parce qu'ils achètent, ils ont l'impression de sauver le football français.
Pour pas cher à mon avis, il a marché à fond le gars.
Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord.
Le début d'accord.
Le feuilleton qui continue entre DAZN, le diffuseur du championnat et la Ligue de foot professionnelle. Il rigole, Fred, qu'est-ce qui se passe?
J'ai entendu Marion qui chantait à contre-temps, mais qui chantait.
Ouais, elle a essayé. Elle a
non,
essayé.
J'étais pas à contre-temps, j'étais parfaitement dans le temps. Non, mais voilà. Rien,
mais elle a tenté.
Au moins, elle a tenté. C'est bien, tu y crois.
On va t'écouter sur le foot, on va t'écouter sur le foot, on va voir si tu es dans quel temps tu vas être.
Alors, cette semaine, DAZN a expliqué ne pas vouloir verser l'intégralité des 70 millions prévus pour l'échéance de février. Les 35 millions restants ont été placés sous séquestre. Hier, audience au tribunal des activités économiques à Paris. La décision sera prise le 28 février prochain. En attendant, pour payer les clubs, c'est la Ligue qui va mettre la main à la poche. Ce nouveau bras de fer qui inquiète évidemment les présidents de Ligue 1, certains clubs étant déjà très affectés financièrement. D'où cette question ce matin, les GG. Le foot français est-il en danger de mort? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non, pas danger de mort.
Fred Weiss.
Oui.
Marion Bartoli. Ah,
le ton, en plus, le ton
ça commence à y ressembler
le
quand même.
Le ton du croque-mort.
Plutôt oui, Marion. Plutôt oui.
Plutôt oui, mais j'ai des nuances, mais je commence à m'inquiéter.
Tu vois qu'on est d'accord, Marion.
Pascal Duprat.
Non. Oh,
attends. Calme-toi.
Avant de vous entendre, les amis, on accueille Arthur Perrault. Salut Arthur.
Bonjour messieurs, dames.
C'est lui.
Bonjour, oui, bonjour. Il travaille sur ce dossier.
Il a creusé déjà depuis un moment, lui. Il enterre club par club.
Il est bien en forme, Christophe.
Arthur, aujourd'hui. On va faire le point avec toi sur la situation. Raconte-nous ce dernier épisode donc, de ce feuilleton des droits télé. Ça a commencé cette semaine.
Oui.
Par donc l'annonce de DAZN de ne pas verser l'intégralité du montant attendu en février.
Oui, c'est une rumeur qui courait depuis plusieurs semaines. Tout s'est accéléré mardi, journée pendant laquelle DAZN ne dément pas l'option de ne pas payer sa dernière échéance pour les droits de la Ligue 1. Le média envisagerait aussi un recours pour défaut de loyauté. La raison, le média estime ne pas être assez protégé contre le piratage qui explose en France. Face aux premières fuites dans la presse, la Ligue convoque un conseil d'administration exceptionnel dès le lendemain à 17h30, le mercredi donc. Pendant cette réunion, Nasser Al-Khelaifi demande des échanges uniquement avec Len Blavatnik, propriétaire milliardaire de DAZN. Jean-Pierre Caillot dit lui être mal à l'aise et ne pas savoir quoi dire au club qui le mandate. Finalement, aucune décision n'est prise. Patience jusqu'à vendredi, jour d'une audience au tribunal de commerce de Paris devant lequel la LFP lance une injonction de paiement contre DAZN, une procédure juridique à laquelle la plateforme répond par une autre procédure pour manquement au contrat. Hier donc, les deux camps se retrouvent devant la justice. Le diffuseur du championnat, via son avocat, confirme pour la première fois ses 500 000 abonnés. La décision du président du tribunal est prévue pour le 28 février, date à laquelle les clubs peuvent espérer être enfin payés. Mais avant, la Ligue va réunir un nouveau conseil d'administration. Ce sera lundi à 17h30. Alors que la clause de sortie du contrat est activable en décembre prochain pour changer de diffuseur à l'issue de la deuxième saison, l'idée d'une éventuelle rupture de contrat plus tôt, d'ici à la fin de saison 2024-2025, fait déjà son chemin.
Alors Arthur, tu restes avec nous. On va peut-être aussi parler des options qui pourraient être envisagées si jamais DAZN, ça s'arrête avec la Ligue 1. Juste avant, je voudrais vous proposer d'écouter un entraîneur de Ligue 1. Évidemment, tous les acteurs ont été interrogés par RMC avant le week-end de championnat. Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille, qui parle de notamment Canal+ et de retrouver Canal. Écoutez.
On est inquiet forcément parce qu'on connaît l'importance de l'apport des droits TV dans le football. Pour moi, l'erreur qui a été faite au départ, c'est de casser la relation avec Canal+, sans faire de campagne publicitaire pour les uns ou les autres. Pour moi, le foot, c'était Canal+. Ils ont révolutionné la retransmission du football grâce à plein de choses que d'autres n'avaient jamais fait. Quand je regarde la Formule 1, que je regarde le rugby, j'ai envie de regarder les matchs sur Canal.
Voilà le message clair de Bruno Genesio hier en conférence de presse. Je rappelle la question, le foot français est-il en danger de mort? Christophe, tu as dit non.
Je pense pas qu'il soit en danger de mort. Il est certes pas au sommet de sa forme, mais il va falloir sans doute procéder à une cure d'amaigrissement s'il veut continuer à vivre. Il y aura sans doute des morts. Il y a des clubs qui sont aujourd'hui vraiment dans le dur, financièrement parlant, qui ne récupèrent pas beaucoup de droits télé domestiques, qui ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions ou les compétitions européennes. Il y a vraiment deux sortes de clubs. Je veux dire, un club comme Lille ou un club comme le Paris Saint-Germain ou Brest ont engrangé pas mal d'argent avec la Ligue des Champions et ils sont à des oppositions totales, par exemple, avec un club comme Le Havre, comme Montpellier, qui eux ont rien et dépendent entièrement des droits domestiques. Et pour ces clubs-là, effectivement, c'est vraiment la misère et c'est très inquiétant pour la suite et une suite à court terme. Donc je pense que certains vont rester sur le bord de la route et ça s'est passé en Angleterre dans le championnat anglais de rugby après le Covid, après le Brexit. Certains clubs ont fait faillite et on les a mis de côté et le club s'est réduit à 10 participants et il essaye de retrouver des forces, mais les droits télé ne sont pas énormes. Et je pense qu'il va falloir vivre sans les droits télé aussi importants qu'aujourd'hui. Parce qu'on a bien compris depuis des années que aujourd'hui, plus personne ne peut ou ne veut payer la somme que réclame le foot français. Là, même à 500 millions, ça passe pas. Ça passe pas. Parce que les diffuseurs ne rentrent pas dans leurs sous. Aujourd'hui, avec 500 000 téléspectateurs, 500 000 abonnés, bah tu rembourses pas ce que t'as dépensé. Donc,
le foot français pour toi n'est pas mort, mais il va devoir se réinventer.
Oui, mais je pense que c'est une valeur sûre et que c'est un truc qui va pas pouvoir mourir comme ça. Il y a quand même une base entre 500 000 et 2 millions de personnes qui sont prêtes à donner des sous si tu luttes contre le piratage, si tu offres plus de choses aux diffuseurs. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent et c'est pas rien comme argent.
Ouais, mais Christophe, tu te rends compte qu'on est sous assistance respiratoire au niveau du foot actuellement. Alors effectivement, tu m'as cité plusieurs clubs qui allaient bien, mais tu as cité aussi quelques clubs qui allaient mal.
Ouais, mais je te dis qu'il y aura des morts.
Oui, sauf que si tu as 4, 5, 6, 7 morts sur une ligue à 18 clubs, bah, tu peux considérer que le foot est très très mal en point.
Un championnat à 15,
oui.
C'est une
ligue à 12, oui, mais
on est déjà en difficulté par rapport à le championnat.
Il est magnifique.
Il donne que des matchs serrés. Tu as vu le nombre de matchs qui ne riment à rien pendant tout un week-end.
Évidemment, je suis complètement d'accord. Sauf qu'à un moment, tu as quand même une ligue à 18 clubs.
C'est ce genre de réflexion qui fait que le foot est décrié, Christophe. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas de sous-vendre le football professionnel français, alors que notre championnat de très bon niveau. Il faudrait commencer déjà par arrêter de dire que c'est un championnat de merde.
Non, c'est pas vrai. Je dis pas que c'est un championnat de merde.
Le premier souci du football français, c'est son manque de...
J'anime les tranches du dimanche après-midi et je peux te dire pas tous les matchs, mais il y en a beaucoup. C'est quand même des purges. T'as plus envie
alors de faire regarde le championnat anglais. Il l'a très bien dit, Bruno Genesio. La force de Canal+, c'est qu'ils savent, quoi qu'on en dise, retransmettre un match de football en particulier.
Peut-être pas, j'en sais rien.
Moi, j'essaye d'expliquer les choses. Le premier problème, et ce qui me fait dire que le foot français n'est pas en danger, contrairement à ce que vous appuyez, ou en tout cas ce que Fred vient d'appuyer, c'est que le produit est bon, très bon. On vendrait pas autant de joueurs si le championnat
le
français
n'était
pas.
Le produit est bon, mais il faut des joueurs.
Nous avons une formation qui marche. Tous les clubs professionnels français, mis à part 4, sont propriétaires de grands groupes étrangers. Nous avons vendu nos bijoux de famille. Le problème, c'est que la Ligue professionnelle de football a dû subir un coup d'arrêt. Le coup d'arrêt, c'est avec Mediapro, vous vous en souvenez, qui promettait monts et merveilles. Parce que le président de la Ligue professionnelle de football ou que les présidents de clubs pensent qu'ils peuvent vendre le foot et les droits télé au milliard, les Allemands sont capables de le faire. Pourquoi la France ne serait pas capable de le faire? Ça, c'est pas un crime. Le crime, c'est que malheureusement, tous les deux ans, eh bien, on change de diffuseur. Et les gens ne s'y retrouvent pas. Et il faut chaque fois demander un peu plus pour pouvoir voir des spectacles qui sont bons, mais des contenus qui sont pas des contenus de professionnels de la retransmission ou du télévisuel. Voilà mon point de vue. Mais le produit en lui-même est très bon. Les clubs français disposent d'une formation exceptionnelle qui nous permet de vendre partout. On existe en Europe, c'était pas toujours le cas. Alors je parle de cette saison parce que avec le nouveau format de la Ligue des Champions, nos clubs ont existé et c'est pas parce qu'il y a DAZN qui a aujourd'hui un défaut de paiement de 35 millions, alors qu'on a aussi nos dirigeants de la Ligue professionnelle de football ont reçu 1,5 milliard en vendant la régie commerciale
à CVC.
C'est pas rien, dispose de fonds de réserve qui permettent de supplanter l'espace d'un instant le défaut de paiement du diffuseur. Donc arrêtez de dire que le foot est mort. Il faudrait qu'il y ait de la continuité et qu'une bonne fois pour toutes, tu vois, quand je lis l'équipe et que je vois que des présidents de club font du off, ben je me dis que notre football, oui, il est malade. Ils sont pas capables de se parler plutôt que faire du off dans les journaux. Je dis oui, c'est ça qui va pas. Ben ils s'entendent pas, ça peut pas faire comme ça.
Alors petite précision d'Arthur et après j'aimerais entendre Marion.
Pour répondre à ce que vient de dire Pascal, d'abord concernant l'Allemagne qui certes a réussi à atteindre ce milliard, c'est parce que l'Allemagne a toujours fait confiance à un diffuseur qui s'appelle Sky et que l'Allemagne ouvre toutes ses portes à Sky.
Le péché original, la continuité,
que ce soit les vestiaires, je peux te le dire, Pascal, pour avoir fait des conférences de presse à Dortmund ou à Munich, ils ont même, après la conférence de presse, une possibilité de poser des questions un peu édito pour faire des sujets en plus. C'est dire à quel point ils sont vraiment confortables. Et deuxième chose, concernant Canal+, Canal vient d'entrer en bourse, Canal vient de réduire la voilure sur le cinéma, et très clairement, Canal, si Canal avait dû faire son retour sur le foot, ça aurait été l'été dernier, au moment où les prix étaient très très bas. Et aujourd'hui, on nous rappelle à Canal que ce n'est absolument pas lié au fait que Vincent Labrune est là aujourd'hui, mais c'est tout simplement lié au fait que Canal a toujours demandé un dédommagement financier, parce que Canal estime depuis longtemps avoir été lésé.
Alors, Marion Bartoli, sur ce sujet, est-ce que le foot français va mourir? Toi, tu as dit plutôt oui, hein.
Alors moi j'avais des nuances, parce qu'effectivement je suis inquiète d'une certaine façon pour la partie médiatique, parce que je travaille aussi dans les médias pour le tennis, mais je connais un tout petit peu ce système de droits télévisuels par rapport au niveau du produit. Et en fait, ce qui me gêne aujourd'hui, surtout ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait DAZN a une clause de sortie qui est activable au bout de 2 ans si le seuil de 1,5 million d'abonnés n'est pas atteint au 1er décembre 2025. Et au vu des chiffres actuels, je ne vois pas comment ils vont être capables de gagner 1 million d'abonnés, puisque environ, grosso modo, même si on n'a pas les chiffres exacts, on est à 500 000 abonnés actuels. Donc je me dis que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, au vu aussi du fait que DAZN essaye de se défausser, ou en tout cas de chercher des moyens légaux pour essayer de payer le moins possible, je ne vois pas comment ils vont continuer à diffuser le foot, et donc ils vont certainement en sortir. Après, ce qui est très gênant, là où je suis d'accord avec Pascal, c'est qu'effectivement, sur Canal, on avait l'habitude d'un produit fini qui était de haute qualité, on avait l'habitude d'émissions qu'on regardait tous, comme le CFC, comme des émissions qui étaient historiques et qui nous permettaient d'avoir une accroche au niveau non seulement d'une journée de foot, mais aussi d'une journée de foot dans sa globalité, donc les matchs diffusés le week-end plus une émission le soir. Ce qu'on n'arrive plus à proposer, le contenu qui est diffusé par DAZN, je lisais les commentaires de personnes qui sont abonnées à cette plateforme, souvent pendant les matchs on ne voit plus d'images, les images sont bloquées, il y a une discontinuité dans la retransmission,
Marion,
qui n'est pas acceptable.
Les images, enfin les matchs sont produits par HBS,
oui.
Qui est
si tu payes un abonnement
DAZN, en fait, qui produit. Et donc, c'est la ligue qui produit et qui produit au moindre prix, parce que.
Oui, la plateforme qui la diffuse, c'est DAZN. Donc, les gens qui sont abonnés à cette plateforme, à un moment donné, quand ils regardent sur leur téléphone portable ou sur leur tablette ou sur leur télé et que ça ne marche plus et qu'ils payent un certain prix à l'abonnement, tu peux comprendre qu'il y a quand même des mécontents. Et c'est là où je rejoins Pascal. Il faut que le produit fini, il faut que l'accès à ce que tu aies envie de regarder soit un contenu qui soit regardable. Et là aussi, où les gens effectivement se disent, moi pourquoi je devrais payer 19,99€ par mois, ou parfois au début c'était 29,99€. Alors on voit qu'ils essayent de proposer des packages avec des prix différents, puisque là ils ont fait un prix final de maintenant pour regarder jusqu'à la fin de la saison, voilà. Donc pour essayer, entre guillemets, d'accumuler les abonnés pour arriver à ce fameux million ou million et demi qu'ils espèrent atteindre, c'est qu'on voit très bien qu'ils le vendent au rabais, et ça me gêne. Donc là où je rejoins totalement Pascal, c'est qu'en fait on a un produit, je pense, qui serait largement vendable,
et en tout cas qui pourrait être
beaucoup mieux vendu, mais on n'aura jamais un million et demi d'abonnés. Mais on n'aura jamais un million et demi d'abonnés, malheureusement.
Cette formule-là, non, ça arrive à un million, quoi.
Au moins.
Allez,
mais si tu as accès aux vestiaires, si tu as accès aux coulisses, si tu as des interviews des joueurs en
en direct avec des joueurs, tu peux arriver à avoir
un produit qui soit meilleur. Alors, là aujourd'hui, le produit n'est pas assez bon.
Les amis, on va continuer évidemment ce débat avec vous. On va se poser aussi la question, la suite. Que faire? Est-ce qu'on continue avec DAZN? Est-ce qu'on essaye autre chose? Que ça sera dans un instant dans les grandes gueules du sport. On revient, Arthur Perrault, reste avec nous pour toutes les précisions. Vous restez avec nous. On revient tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport, il est 9h31 avec ce matin Fred Weiss, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Marion Bartoli. Dans un instant, ça sera le zapping des GG, avec notamment au programme Melvin Jaminet qui sort du silence et qui se défend après l'affaire de sa vidéo à caractère raciste. Mais d'abord, la suite de notre débat sur les droits télé de la Ligue 1. On est toujours avec Arthur Perrault, qui est notre spécialiste pour RMC. La question, le foot français est-il en danger de mort? 32-16 pour nous rejoindre. Juste avant de vous redonner la parole, Arthur, une petite précision concernant la chaîne. scène de la Ligue. C'était dans les cartons avant qu'ils choisissent DAZN finalement. Est-ce que c'est encore dans les cartons la création de la chaîne d'une Ligue pour sauver le foot français?
Alors c'est un dossier qui n'a pas été totalement refermé par l'instance. On peut dire que cela peut servir de roue de secours, évidemment, si demain la situation se gâte avec DAZN. On rappelle, ce qui posait problème avec la création de cette chaîne, c'est les rentrées d'argent immédiates dans les caisses des clubs. Il fallait attendre la deuxième année pour que les clubs aient vraiment une rentrée d'argent conséquente. C'est peut-être le seul problème. Il faudra peut-être juste revoir ce business plan pour la chaîne 100% Ligue 1 de la Ligue de football professionnel. Autre chose, si demain le contrat est amené à être cassé entre DAZN et la Ligue de football professionnel, celui avec beIN sera aussi cassé. beIN qui diffuse le 9e match de Ligue 1 chaque week-end. Ce qui voudrait dire que beIN derrière pourrait récupérer l'intégralité. Mais se pose la question du prix. Est-ce que ce sera au même prix que DAZN? Je ne pense pas. Donc beIN pourrait demander à avoir un prix au rabais pour récupérer l'intégralité de la Ligue 1. Fred?
Oui, non, c'est juste pour rebondir par rapport à mes collègues. Depuis le début, ils parlent des causes. Oui, effectivement, certainement, il n'y a pas assez d'abonnés. Oui, il y a trop de piratage. Oui, le produit n'est peut-être pas suffisant. Sauf que ça, c'est pas les effets. Les effets sont négatifs sur le football. Il n'y a plus d'argent. Les clubs n'ont pas d'argent devant eux. Et c'est ça qui m'inquiète par rapport au danger. Quand on dit danger de mort, évidemment, c'est peut-être une exagération, mais un vrai danger.
Sur le
projet footballistique, j'ai envie de dire, il faut une refonte globale du modèle économique. Mais est-ce qu'on a la patience, le temps et surtout les économies pour pouvoir continuer à se projeter? Et c'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. Et tout à l'heure, Arthur parlait de la production et d'éventuellement créer sa chaîne. Alors évidemment, il y a évidemment ce problème économique, encore une fois, qui repousserait. Mais surtout qu'on vient de critiquer la production des matchs qui est faite par la Ligue. Et maintenant, ils vont faire recréer leur propre chaîne et ce sera encore plus compliqué.
Il faudra mettre les moyens de faire la chaîne. Ils obtiendront plus de facilité de la part des clubs pour entrer dans les
mais en termes de production de matchs, je suis pas certain.
Certains présidents militaient pour ça.
D'autant que les frais de production d'une chaîne, au départ, si tu veux par exemple allier Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, à un moment ça avait été évoqué, faire une application. On en parlait hier avec Luc Panier, qui est le patron de la production ici à RMC Sport, et il dit au bas mot, avec le marketing, avec tout le reste, fabrication de... C'est 150 millions par saison.
C'est colossal.
Juste pour la production.
Le marketing.
C'est-à-dire
qu'en
l'instant, il y a zéro.
Donc 150, et t'as pas encore payé le moindre sou.
Donc tu commences à moins 150 millions déjà.
Voilà.
C'est ça, avant d'avoir vendu les matchs.
Avant de donner le moindre centime au club de foot qui attendent évidemment énormément. Non, moi, je voudrais savoir, Pascal, si te semble réalisable et possible que certains clubs fassent une cure d'austérité aujourd'hui et décident de ne plus virer leur entraîneur au bout de trois mauvais matchs, de ne plus acheter n'importe quel joueur comme ça sans regarder, c'est les panic boys de fin de mercato. Est-ce que c'est possible?
Mais donne-moi les clubs dans cette
je sais pas,
là.
Montpellier,
Nantes,
ils achètent
Rennes, Angers. Et encore Rennes, c'est Pinot, donc il n'y a pas de problème. Brest qui vient de faire la Champions League, Angers, Montpellier et Reims, un degré moins, parce que Reims, ça veut pas dire que les autres clubs gèrent pas leur budget correctement, Montpellier et Angers pour ne pas les citer, mais Reims est réputé, et Jean-Pierre Caillot est réputé pour très bien gérer son club. Mais cela dit, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites sur le produit, sur les coûts de production, si tant est que la Ligue décidait de créer sa propre chaîne, mais vous oubliez des options. Quand en Allemagne, je vous le rappelle, c'est 1,25 milliard. Quand en Angleterre, on compare pas avec l'Angleterre, c'est 2 milliards, l'Espagne c'est 2 milliards et l'Italie c'est 900 millions de droits télé. Je vois pas pourquoi la France elle aurait
ils ont le même diffuseur
de ces chiffres-là. Laisse-moi finir justement.
Le piratage en Angleterre, elle est super efficace.
Ça veut dire que nous on n'est pas capable de faire ces luttes-là. On est plus con que les autres en fait. Donc simplement ce que je voulais dire, Christophe, ça fait de nombreuses années que c'est en fait un fouillis parce qu'on change en permanence. Malheureusement, depuis le retrait de Canal+, ou le fait que la Ligue et Canal se sont un peu froissés, depuis, eh bien, c'est, on va dire,
c'est balbutiant. Mmh. Ok. Là, il est fort à parier qu'en décembre 2025, DAZN, le contrat va être rompu. Ça laisse malgré tout du temps jusque-là pour trouver des solutions. Et les solutions, c'est peut-être Bein, parce que Bein, il y a quand même un acteur majeur du foot français qui, par son pays, détient la chaîne, à savoir Nasser El Khelaifi. Donc, peut-être que Bein et Canal, pourquoi pas Canal?
Oui, mais sauf que Bein a des réalités économiques, Pascal, à un moment. Il ne peut pas racheter à n'importe quel prix, en fait.
Mais vous en êtes sûr, alors?
Pourquoi ils ne sont pas allés la première fois?
Pourquoi faire un débat?
Ils les ont attendus pendant des mois et des mois. Il a fait très bien après, parce qu'il espérait que Bein allait se lancer. Finalement, Bein a acheté juste un match. Parce qu'ils ont leur modèle économique aujourd'hui.
Donc, si j'ai bien compris, Nasser, il va laisser donc le football français crever.
Bon, alors, moi, j'aimerais qu'on pose la question à ceux qui regardent ou qui suivent le foot, les supporters, et qui sont avec nous au 32-16 sur RMC dans les grandes gueules du sport. Jonathan est avec nous.
Tu peux répondre sur
Bein ? Oui, alors, j'accueille Jonathan, Marion, et tu peux répondre. Merci. Salut, Jonathan.
Bonjour, salut.
Ça va ?
Juste avant de commencer, j'aimerais avoir une petite pensée pour Avia Souli,
oui,
qui était qui a bercé mon enfance avec mon grand-père, où on écoute à la radio, donc voilà.
Tu as raison, Jonathan, effectivement, on pense à ses proches, Avia Souli, légende du journalisme à Marseille, et qui a suivi l'Olympique de Marseille, et qui était encore dans les conférences de presse, encore récemment, et qui suivait de très près l'Olympique de Marseille. Tu as raison, Jonathan, on partage également ton message. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur cette Ligue 1?
Alors, moi, j'avais juste envie de dire que c'est bien fait pour les clubs de Ligue 1 quand même, parce que le plus gros responsable, c'est pour moi la Brune. Et il a été quand même réélu, c'est-à-dire que les clubs qui... Alors, peut-être pas M. Caillot, parce que si j'ai bien compris, M. Caillot, c'était l'un des seuls à s'opposer. Mais les Nicolin qui, en plus, Nicolin, il a fait une sortie, même s'il s'en est excusé, hein. Mais il a fait une sortie hyper condescendante où 30 euros, c'était le prix
d'un resto.
Voilà, qui a toujours soutenu son ami La Brune. Donc Montpellier, et je suis désolé pour tous les salariés qui risquent de trinquer, mais je vais pas pleurer pour Montpellier parce que La Brune est responsable de la situation dans laquelle on est. Ils ont DAZN et La Brune ont mal appréhendé les Français. 30 euros ou 40 même pour regarder le contenu qu'il y a, pour regarder des showcases de rappeurs de bas de gamme avant les matchs du PSG. C'est ça qui est proposé sur DAZN et pour lequel on paye 40 euros.
Mais ça fait pas planer justement un danger sur la Ligue 1 en général, parce que tu parles de certains clubs, mais ça fait planer un danger sur toute la Ligue.
Alors, sur la Ligue 1, je pense pas qu'il y ait énormément de danger. Des clubs comme l'OM, le PSG, ils vont réussir à s'en sortir. Même si l'OM, on va avoir un train de vie où on va peut-être devoir ralentir. Les petits clubs, oui, risquent morfler. Les petits clubs risquent morfler, oui.
Tu t'es abonné, toi, à DAZN, Jonathan ?
Alors, avec un pote, on a partagé les abonnements. Mais voilà, mon pote qui est abonné au Vélodrome, moi je le suis plus. Mais mon pote qui est abonné au Vélodrome, donc il paye son abonnement au Vélodrome et en plus il paye un abonnement DAZN.
Ouais.
Les supporters du foot français, on a été pris pour des vaches à lait.
Ouais.
Le problème de l'IPTV, ça a été que les gens n'ont pas voulu être pris pour des cons.
Ouais, donc c'est dès le départ, effectivement, on l'a dit, hein, le problème, ce sont aussi les clubs qui ont donc voté pour Vincent La Brune. On a bien compris ton message, Jonathan. Marion, tu voulais rajouter quelque chose sur ce débat?
Oui, simplement parce que vous avez certainement suivi l'actualité comme moi. En ce moment, il y a Nasser El Khelaifi qui est aux prises avec la justice française. Oui. Et justement, ils utilisent comme moyen de pression le fait de se dire, si vous continuez, nous, on va complètement s'enlever du foot français. Donc, dans sa totalité, on va plus investir dans le PSG ni dans Bein. Donc, effectivement, de voir aujourd'hui, d'entrevoir Bein qui va reprendre complètement la Ligue 1 et payer, je sais pas combien de droits télé, à quelle prise estime la Ligue 1 actuelle, mais de se dire qu'ils vont passer de ça à mettre 400 ou 500 millions sur la table, j'ai quand même du mal à l'envisager.
On remercie Jonathan d'être passé en tout cas sur RMC dans les grandes gueules du sport, et n'hésitez pas, comme Jonathan 32-16, pour nous rejoindre. Merci beaucoup, Arthur. On te remercie, salut. On te libère, mais tu as encore du travail, merci, évidemment, sur ce feuilleton. Épisode 453, bientôt à venir, sans doute, sur RMC. Et je vous le rappelle, RMC diffuse tous les matchs, de Ligue 1. On va les suivre d'ailleurs aujourd'hui. Il y a Marseille, il y a le PSG, au programme Monaco-Nantes également à suivre. Donc il y a des belles affiches à suivre aujourd'hui, notamment avec Christophe Cessieux, sur RMC. À ne pas rater, bien sûr. Dans un instant, le zapping des grandes gueules du sport et les Jeux d'hiver 2030 qui ont trouvé leur boss, ça tombe bien, c'est une star des boss. Edgar Gros-Piron, choisi pour présider le COJO 2030. On
il
en parle dans un instant sur RMC. Restez avec nous.
Les grandes gueules du sport.
Et le match commence. François Pinet.
Il est 9h44 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Fred Veil ce matin. Merci à ceux aussi qui nous écoutent en podcast. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc on en profite pour vous remercier. À 10h, ce sera le bras de fer des grandes gueules du sport sur Didier Deschamps, qui annonce qu'il n'est pas à la retraite, même s'il va quitter les Bleus en 2026, peut-être donc pour reprendre un club. Est-ce qu'il ferait un bon entraîneur selon vous? Les GG ont choisi leur camp. Vous pouvez aussi choisir le vôtre en votant dès maintenant sur le compte X des grandes gueules du sport. Et à 10h45, un moment très attendu dans l'émission, les GG contre-attaquent. Les GG ont des débats à vous proposer. C'est à vous de choisir le meilleur débat. C'est le moment, les amis, de nous proposer vos débats. On va commencer par toi, Pascal Duprat. Je sais que tu gagnes souvent ces débats-là.
Oh bah oui. Alors, un petit coup Mbappé, un petit coup Griezmann, il est sûr de gagner avec ça.
On ne prend jamais de risque. Pascal, bon, Christophe, on reconnaît bien là ton envie. Non, aujourd'hui, je voudrais te parler de Pierluigi Collina. Tu sais qui c'est, Pierluigi Collina?
Bien sûr, l'arbitre.
Un arbitre illustre, un arbitre merveilleux, un arbitre que je vénérais. Aujourd'hui, il est président de la commission.
Tu n'as jamais arbitré, non?
De l'UEFA.
C'est pour ça qu'il l'aimait.
Et à la FIFA, il est président des arbitres à la FIFA. Il ne m'a jamais arbitré. Tu as raison de le souligner. Mais néanmoins, j'aimerais pousser un coup de gueule. J'en ai marre qu'on révolutionne le football, qu'on en change les règles. Pierluigi Collina, il veut instaurer le one shot pour les pénalties pendant les matchs. On en parlera tout à l'heure. Votez pour moi, on en débat ensemble. C'est usant qu'on change en permanence ce foot qui est si merveilleux. Laissez-le tranquille.
Il parle pas de Mbappé, mais il peut gagner quand même avec son débat. On va voir.
Bah oui, évidemment.
Messieurs, dames, ce que vous proposez, Fred Weiss.
Mais moi, j'avais envie de parler d'un sport dont on parle très peu, malheureusement, dans cette émission, le basket.
Un débat par semaine sur le basket, t'en arrêtes pas.
Je vais parler de la Pro A qui a souvent été critiquée. Tout le monde disait que c'était nul, ce qu'on appelle la Betclic Elite maintenant. Eh ben, je pense qu'elle est sous-évaluée. Je voudrais en discuter avec vous. Est-elle sous-évaluée?
Il y a plus de sous, on t'a dit. Il y a plus de sous pour le foot. Tu crois pas qu'on va donner des sous pour le basket?
Et nous, on prend des piécettes. Hein. Pas de problème.
Christophe, il désingue les débats des autres. J'ai bien compris sa stratégie. On va voir s'il fait la même chose avec Marion. Marion Bartoli, on t'écoute.
Alors, moi, je vais pas vous parler ni d'Mbappé, ni de Griezmann, mais de Dembélé. Parce que Dembélé, pendant une saison et quelques, les cages, ils savaient pas où elles étaient sur le terrain. Et là, tout d'un coup, ils se mettent à nous mettre des triplés à chaque match. Donc, je vous parler du réveil de Dembélé.
Oui, pourquoi pas.
On en parlait cette semaine, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'une fée s'est penchée sur son berceau?
Est-ce que c'est le même?
Est-ce qu'il a trouvé
par l'IA peut-être
la maturité?
Christophe Cessieux, ton débat.
Eh bien, moi, je suis triste ce matin parce que la série de Netflix qui a été consacrée au Tour de France et dont va être diffusée la troisième saison au mois de juin, eh bien, va disparaître après ça. Le cyclisme n'a pas trouvé assez de monde pour regarder cette série, alors que pourtant c'était excellent, on découvrait plein de choses et je trouve ça un peu triste, alors que la Formule 1 dont le championnat est pourtant particulièrement boring, eh bien continue, ça fait 7 saisons de suite.
N'importe quoi. C'est toi qui es boring.
Pour aller voter, il y a déjà des gens qui votent, alors allez-y, ça sera à 10h45
mais bon, là,
pour la réponse.
Avec les solutions de facilité du foot, je suis mort.
Mais non, pas forcément. Allez.
Tu peux nous redire Netflix, s'il te plaît.
9h48. C'est l'heure du zapping.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Et juste avant le zapping, on accueille Léna Marjac et Sébastien Amier, notre consultant ski Bastoun, qui sont là. Salut.
Salut François, salut à tous.
Salut François, bonjour les GG.
Bonjour.
Parce que
les championnats
du monde, regarde le temps qu'il fait à Salba. Ils vont faire de la poudreuse après les deux. Là, ça donne
et on va vivre le slalom féminin, Léna et Bastoun, avec la première manche qui a débuté. On attend notamment la star américaine, Michaela Schifrin.
Oui, la star américaine Michaela Schifrin et ses 8 titres mondiaux. Elle est dans le portillon de départ. Elle va s'élancer dans quelques instants. Elle qui a été championne du monde cette semaine en combiné par équipe pour le grand lancement de ce nouveau format qui sera olympique l'an prochain. Et Michaela Schifrin vient de partir. Pour l'instant, c'est une Autrichienne qui est en tête. C'est Katharina Litzberger. Mais aujourd'hui, Bastoun, clairement, Michaela Schifrin a envie de montrer qu'elle est de retour après sa blessure au mois de décembre dernier.
Oui, est-ce que son état de fraîcheur va lui donner raison? En tout cas, elle nous l'a montré derrière le slalom du combiné qu'on pouvait compter sur elle. Une grosse mise en action sur le haut pour l'instant, c'est du bon ski.
17-4 dixièmes maintenant d'avance pour Michaela Schifrin. On est sous le soleil, il fait très froid. Ce sont des conditions parfaites aujourd'hui pour cette première manche du slalom des mondiaux de Saalbach. Et Michaela Schifrin pour l'instant qui est vraiment très très bien partie. Bassoum, on va attendre le prochain temps intermédiaire, mais elle en avait 4 dixièmes pour l'instant d'avance. Elle en a perdu un petit peu, 12 centièmes maintenant, Bassoum.
Oui, Linsberger a fait une grosse fin de tracé. Mais Michaela là, ce qui juste sur cette partie finale dans le mur où il faut maintenant prendre de la vitesse, parce que le plat c'est assez vite dans l'axe et il faudra le passer, mais ça va être le match, ça va faire le match pour cette première manche en tout cas.
Et Michaela Schifrin qui passe la ligne d'arrivée à l'instant en deuxième position avec 14 centièmes de retard sur la locale, l'Autrichienne Katharina Linsberger. Et François, on va pas oublier quand même, parce que là on a parlé de Michaela Schifrin, mais on a des Françaises qui sont en lice aujourd'hui. Elles seront trois. On aura Marie Lamure avec son dossard 21, Chiara Pogneau dossard 26 et Marion Chevrier dossard 37.
Parfait, on va suivre ça. Merci beaucoup Bastoun, merci beaucoup Léna, on vous retrouve évidemment pour suivre ce slalom, cette deuxième manche notamment, et les Françaises. Donc on revient sur notre zapping, vous connaissez le principe bien sûr, on va vous donner des actus de la semaine, si ça vous plaît vous pouvez parler, si vous vous en foutez vous passez votre tour. On commence par l'info concernant Melvin Jaminet qui se défend après sa vidéo raciste lors de la tournée des Bleus. On s'en fout pas. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Fred Weiss.
Je m'en fous pas.
Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Dans une interview donnée au Midi Olympique hier, Melvin Jaminet est revenu donc sur l'épisode du 6 juillet dernier lorsqu'il avait publié une vidéo où on le voyait tenir des propos racistes. Dans l'interview, il déclare « Je ne suis pas et je ne serai jamais raciste. Ce ne sont ni mes valeurs ni l'éducation que mes parents m'ont donné. La consommation d'alcool et la fatigue ont fait que j'ai totalement perdu le contrôle de moi-même ce soir-là. Je n'étais pas moi-même. » Il a été suspendu 34 semaines et sa suspension a pris fin ce mois-ci. Il pourrait rejouer la semaine prochaine contre le Stade Français avec son club de Toulon, Christophe.
Ouais, alors mon propos ce matin, c'est pas de juger ce qu'a dit Jaminet dans cette vidéo. Il se défend d'être raciste. Chacun jugera en conscience et selon ce qu'il pense. Moi, j'ai été frappé par son témoignage. C'est la première fois depuis cet été qu'il évoque les faits dans la presse. Et je me suis imaginé l'espace d'un instant dans sa peau lorsqu'il réalise, alors qu'il est complètement cuit, la connerie qu'il vient de faire en appuyant sur le mauvais bouton et en envoyant ses propos qu'il vient d'enregistrer, qui étaient destinés à un copain, il se trompe de bouton, il l'envoie à la terre entière. Et là, quelques instants plus tard, son téléphone se met à vibrer, à sonner de tous les sens. Et là, il réalise la bêtise qu'il a faite, c'est-à-dire envoyer des propos racistes qui étaient destinés à un copain. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Et la vie qui bascule en un instant, quoi. D'un instant, il devient.
Mais ça reste des propos racistes, Christophe. Que ce soit un copain à la terre entière, ça reste des propos racistes.
Sur le fond, la vidéo.
Oui, sur le fond, tu peux pas dire. Sur le fond, c'est pas défendable.
Dans la sphère privée, il y a parfois des choses, il y a des blagues, peut-être pas des blagues racistes.
Non, mais je trouve pas ça drôle.
Oui, non, je trouve pas ça drôle non plus. Je veux dire juste que ce mec-là se retrouve. Il fait une connerie énorme, mais la deuxième connerie, c'est en plus de l'envoyer à la terre entière.
Il en parle de ça, effectivement, quand il se rend compte
de ça. Il devient pestiféré, il est exfiltré du 15 de France, il perd son job. Enfin, tu as les conséquences parce qu'il a picolé et parce qu'il est un peu débile d'avoir fait ça. Je ne veux pas juger ce qu'il a dit de raciste ou non. J'ai bien compris que c'était vous, c'est ça qui vous intéresse le plus. Mais,
qui veut réagir?
Mais bon.
Je sais pas quoi dire sur ce genre de truc. C'est très compliqué. J'ai juste une expression qui me tient à cœur, c'est in vino veritas. Et donc j'espère que c'est pas le cas. J'espère que là c'était juste une erreur, que parfois on dit des conneries quand on est sous emprise de l'alcool. Malheureusement, parfois on dit des vérités et j'espère vraiment que c'était pas le cas. Je comprends que sa vie bascule, mais malheureusement, tu dois assumer tes actes et ce qu'il a fait, c'était vraiment mal. Donc, je suis pas choqué qu'il ait été exfiltré. Je suis pas choqué qu'il ait été
changé. Non. Moi non plus, je suis pas zappé. Mais c'est la vie qui bascule.
La vie bascule complètement, c'est clair.
On continuera d'en parler, bien sûr, puisqu'il sera de retour sans doute sur les terrains la semaine prochaine. Edgar Gros-Piron, élu à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030. On l'a appris cette semaine. On s'en fout pas. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Fred Weiss.
Je m'en fous pas.
Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Edgar Gros-Piron est donc le président du COJO 2030, désigné parmi six prétendants. Pour les plus jeunes, Gros-Piron, c'est le premier champion olympique de ski de bosse. On se souvient de son style inimitable, c'était en 92, oui. À Albertville, Marion.
Eh oui, je m'en souviens encore. Non, ça m'intéresse parce que j'ai contacté Martin Fourcade aujourd'hui pour essayer de l'avoir dans Bartoli Time ce soir, parce que c'était quand même lui qui était en tête et en pole position. Ouais. Et il y a eu des propos qui ont été dits par certains politiques envers Martin qui étaient franchement pas top. Donc j'ai voulu avoir un petit peu plus de dessous de l'affaire. Malheureusement, Martin ne souhaite pas s'exprimer dans la presse aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a été quand même un retournement de situation, même si je suis persuadée qu'Edgar sera très bon à ce poste et il y a aucun souci avec ça. C'est un immense champion, comme tu l'as rappelé. Mais c'est ce revirement qui m'intrigue quand même un tout petit peu.
On aimerait bien l'entendre, effectivement, s'il veut venir dans les grandes gueules du sport. On adore Bartoli Time, hein, 19h30 tous les dimanches, mais s'il veut venir aussi dans les grandes gueules, Martin Fourcade, il est bienvenu.
Oui, mais bien sûr.
On est la même équipe. Hein.
Non.
On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Pascal, un petit mot sur
non,
Edgar
Gros-Piron. Non, en fait, je m'en fous pas d'abord parce
qu'en plus, toi, t'es de la Neige, tu es bien.
Et au Savoyard, donc bien sûr que je pense qu'il est légitime. Je suis juste un peu déçu pour Marie, notre collègue, Marie Martineau, qui était candidate.
On embrasse
et
Marie,
je me disais, tiens, enfin, peut-être qu'ils vont être novateurs. Ils vont faire en sorte que ça soit au moins un binôme, un homme, une femme, parce que Marie aurait été tout autant légitime qu'Edgar. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Bah, écoutez, on va en reparler demain, c'est évidemment, d'Edgar Gros-Piron. Ça sera le dossier des grandes gueules du sport. On va se demander, parce qu'il a un gros travail devant lui, un gros chantier, si c'est pas perdu d'avance pour les Jeux Olympiques 2030, quand on a vu les JO 2024, est-ce que c'est un combat perdu d'avance, puisqu'on va évidemment comparer les deux événements. On aura le temps d'en parler demain dans les grandes gueules du sport, soyez au rendez-vous. Mais dans un instant, on revient dans nos grandes gueules du sport avec le bras de fer des GG au programme. On parle de Dédé, il annonce qu'il ne prendra pas sa retraite après l'équipe de France, Didier Deschamps. Est-ce que vous le voyez réussir à nouveau s'il reprend un club? On en parle tout de suite sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.